Bonsoir, bienvenue dans cette émission. La haute cour militaire a condamné vendredi 5 juin à Kinshasa 54 personnes à la peine de mort dans l'affaire de l'assassinat des experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, près de 9 ans après les faits. Les condamnés étaient poursuivis notamment pour crimes de guerre dans ces dossiers liés au double homicide des deux enquêteurs onisiens tués en mars 2017 dans la province du Kasaï. Les victimes enquêtaient sur des fosses communes et les violences liées au conflit impliquant la milice Kamuina Nsapu lorsqu'elles ont été assassinées. Selon les informations recueillies, plusieurs responsables de la milice Kamuina Nsapu figurent parmi les personnes condamnées aux côtés d'exécutants présumés et du colonel Jean-Dédier Mambouini, officier des forces armées de la République démocratique du Congo FRDC. Ces derniers avaient déjà été condamnés en 2017 à 10 ans de prison pour violation des consignes, crimes de guerre et association des malfaiteurs. Il était notamment accusé d'avoir fourni des munitions de calibre 12 qui auraient servi lors de l'assassinat des deux experts de l'ONU. Quel est le pire faire du verdict prononcé dans cette affaire? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission en ligne Dominique Kakambala. Il est avocat, il est membre de la société civile du Kasaï central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Il est également directeur général de l'ONG dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits, SCED en sigle. Bonsoir Maître Dominique Kambala.
Bon matin, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et aussi en ligne, Jonas Tchombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Et ici au studio, Maître Rufien Louko, avocat, il est chercheur en droit de l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. Bonsoir Maître Rufien Louko.
Bonsoir Guy Maté, vous allez vous habituer à me présenter. Merci Rufien Louko, chercheur et écrivain congolais.
Merci, bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, la haute cour militaire a condamné vendredi 5 juin à Kinshasa 54 personnes à la peine de mort dans l'affaire de l'assassinat des experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, près de 9 ans après le fait. Les condamnés étaient poursuivis notamment pour crimes de guerre dans ces dossiers liés au double homicide des enquêteurs onisiens tués en mars 2017 dans la province du Kasaï. Revenons sur cette affaire dans ce reportage d'André Katende, notre correspondant au Kasaï central.
Les personnes condamnées étaient poursuivies notamment pour crimes de guerre par meurtre dans les dossiers du double assassinat des deux experts des Nations Unies. Le fait remonte au 12 mars 2017 près de la rivière Moyomusula dans les territoires des Dibaya au Kasaï central. Les victimes, l'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaïda Catalan, enquêtaient sur les fosses communes et les violences liées au conflit Kamuina Nsapu lorsqu'elles ont été tuées. Parmi les condamnés figurent plusieurs responsables de la milice Kamuina Nsapu, des exécutants ainsi que les colonels Jean-Dédieu Mambouini, officier des FRDC. En première instance, 49 des 54 prévenus avaient été condamnés à la peine de mort. Mais ce verdict de la haute cour militaire ne fait pas l'unanimité. Des organisations de défense des droits de l'homme affirment que le véritable commanditaire de ces doubles assassinats n'ont jamais été identifié ni poursuivi. Elles estiment que certaines autorités de l'époque citées dans ces dossiers n'ont pas été inquiétées par la justice. Les conflits Kamuina Nsapu trouvent son origine dans indifférent entre les autorités et le chef coutumier Jean-Pierre Mpandi du village Kamuina Nsapu. La crise bascule dans la violence en août 2016 lorsque les forces de sécurité mènent une opération à son domicile l'accusant des rébellions. Le chef coutumier est tué lors de cet assaut. Sa mort provoque la colère de ses partisans qui se constituent en milice. Les affrontements entre cette milice et les forces loyalistes s'étendent alors dans l'espace Kasaï. Selon les Nations Unies, ce conflit a fait plus de 3000 morts et provoqué le déplacement ou l'exil de plus d'un million de personnes. Plusieurs cas de violences sexuelles et d'importants actes de destruction avaient également été documentés.
Merci à vous, André Katende. Dominique Kambala, avocat, vous êtes membre de la société civile du Kassai Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Vous êtes rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Vous êtes également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits SCED en sigle. Que pensez-vous de ces verdicts prononcés dans cette affaire, maître Dominique Kambala?
Merci Guy Maté pour la parole. Je salue d'abord mon cher ami Rufin Luko, que je connais bien, Jonas également, ainsi que tous les auditeurs. Alors, la lecture qui peut être faite de ce verdict, elle est mitigée. Mitigée, dans un premier temps, nous accueillons ce verdict avec satisfaction, dans la mesure où ce procès s'inscrit dans le cadre de besoins exprimés par les populations de la province du Kassai Central lors des consultations populaires sur les besoins de la justice en 2020. Les populations, à plus de 50%, avaient estimé qu'il fallait engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne qui s'était engagée sur la voie des violations des droits de l'homme. Aussi, ce procès rencontre le deuxième pilier de la justice transitionnelle, à savoir la justice. Et que donc, nous pouvons nous dire qu'un pas a été réalisé, un pas a été franchi sur le chemin de la lutte contre l'impunité. Ça, c'est du côté, on dirait, positif, mais le sentiment mitigé aussi en termes d'interrogation. Interrogation dans la mesure où, comme on vient de le dire dans le reportage par André, c'est que au cours des enquêtes qui ont été menées, des investigations dans tout ce qui s'est passé dans le Kassai, il y a eu des commanditaires au plus haut niveau qui étaient cités. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des menus fretins qui sont pratiquement poursuivis et sanctionnés. Alors, nous estimons que pour que vraiment la lutte contre l'impunité des crimes graves soit totale, il faut absolument et absolument que toutes les personnes présumées coupables dans ce qui s'est passé au Kassai soient interpellées et sanctionnées, qui qu'ils soient, et quoi qu'il en coûte. À ce moment-là, nous aurons la satisfaction que la justice a été véritablement faite. Ça, c'est deux. Nous nous posons la question de savoir, parce que Zaïda Kaplan et Max Seth n'étaient pas les seuls, il y a eu les quatre accompagnants congolais, leur sort n'est pas encore connu jusqu'à présent. Pourquoi le point, le focus est seulement sur les deux experts onusiens? Pourquoi les quatre compatriotes congolais ne peuvent pas avoir droit à la justice? Et pour terminer, peut-être pour le premier tour de micro, c'est que les interrogations persistent. Là, on vient encore de sanctionner, de condamner les justiciables à la peine de mort. Or, il y a la sacralité de la vie humaine. Nous nous posons la question de savoir pourquoi la justice congolaise, la justice militaire, continue à faire recours à cette peine de mort, alors que la Constitution de la République consacre la pertinence de la vie humaine. Alors, pour terminer le premier tour de micro, c'est que, nous nous posons aussi la question de savoir les partis civils, la famille de Mike Sharp et Zaïda Kaplan ne se sont jamais constitués partis civils. Pourquoi? Et la dernière interrogation, pourquoi la justice militaire continue à juger les civils alors que l'article 156 de la Constitution consacre cette justice pour les militaires et pour les policiers? Alors pourquoi la justice militaire continue-t-elle à pouvoir juger les civils? Donc, nous accueillons ce verdict avec un sentiment mitigé, satisfaction, un pas a été franchi, mais il y a encore des interrogations qui sont suscitées par ce procès, de sorte manière que, il y a une sorte de goût d'inachevé par rapport à ce procès.
Maître Dominique, vous dénoncez, n'est-ce pas, le fait que ceux qui ont été poursuivis et condamnés, c'est selon vous des menus fretins. Mais lorsqu'on apprend les conditions dans lesquelles les forfaits avaient été commis, vous pensez qu'il était facile d'identifier les véritables commanditaires?
Allô?
Oui, j'ai rappelé que vous dénonciez, n'est-ce pas, le fait que, selon vous, ce sont les ménis frétins qui ont été poursuivis et condamnés. Et je vous posais la question de savoir, lorsque vous suivez la manière ou les conditions dans lesquelles les forfaits, les assassinats avaient été commis, vous pensez qu'il était facile dans ces conditions-là d'identifier les véritables commanditaires?
Mais oui, parce que nous avons suivi l'ensemble des cas emblématiques et prioritaires qui ont été sélectionnés par la cellule d'appui aux poursuites de la MONUSCO. Et dans certains dossiers, nous avons cité même devant les juridictions militaires, devant le littoral militaire supérieur, certaines personnes, certaines plaintes ont été déposées. Mais comment on se contente de menus fretins, je m'excuse de l'expression, alors qu'il y a des commanditaires au plus haut niveau, sur le plan civil et militaire, qui n'ont jamais été poursuivis?
Alors, pour vous, la condamnation est-elle sévère ou c'est une condamnation tout à fait correcte?
Bon, de toute manière, moi je me pose la question, parce que lorsque vous lisez la Constitution, si je ne m'abuse, article 16,
la vie humaine est sacrée.
Mais comment, nous nous posons la question, comment on aurait pu peut-être utiliser, parce que l'arsenal juridique congolais n'a pas seulement, ne prévoit pas seulement la peine de mort.
Il y a d'autres peines. Pourquoi la justice militaire continue
à faire recours à la peine de mort alors que la vie humaine est sacrée? Nous nous posons cette question-là.
Merci. Merci Jonas Tombela. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle... D'abord, est-ce que vous êtes là? Parce qu'au début, on m'a dit que vous n'étiez pas encore là. Est-ce que vous êtes là,
Jonas Tombela? Merci, je suis là.
Voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Comment, vous également, vous réagissez à ces verdicts dans l'affaire assassinat des experts des Nations Unies?
Oui, dans ce verdict, d'abord je salue tous les co-débatteurs, les auditeurs de Radio Capi. Je précise ce message à la fois avec déception, mais en même temps, l'espoir, parce que ça nous permet de réallumer le feu pour que justice soit faite pour les victimes. Comme vous le savez, la justice est censée être le rempart de faibles, les victimes, contre l'arbitraire. Là, nous sommes dans un cas où la justice semble donner l'image d'une justice sélective. Il y a des gens qu'on peut rapidement juger, condamner et prononcer les sentences. Mais il y a aussi des gens qu'on ne pourra pas condamner ni poursuivre parce qu'ils sont complacés, parce qu'ils ont... Alors, ça donne le sentiment de justice sélective. Nous pensons, comme l'a dit Maître tout à l'heure, qu'on s'est contenté de là où on avait la facilité de le faire de façon la plus rapide possible, la plus organisée possible, mais il y a des noms des gens qui ont été cités dans cette affaire. Et ces gens continuent à circuler librement en toute impunité. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse parler de la justice juste? Là, nous sommes en face d'une justice de faibles contre la justice de plus forts. Alors, c'est cette justice-là qui pose problème. Mais la démarche en soi vers la recherche de la vérité, condamner ceux qui ont commis des crimes, encore faut-il que ces condamnations puissent se boucher sur la réparation. Parce qu'il ne suffit pas de condamner pour être très joyeux, mais aussi il faut que nous sachions que ce qu'on a condamné, il y aura réparation. Ben, avec les messieurs qu'on venait de condamner, sont des menus frétins, comme le disait Maître tout à l'heure, mais les plus hauts placés sont abandonnés. Donc, nous n'avons pas assez vraiment le sentiment d'être satisfaits et d'être en face d'une justice qui pourra nous amener à ce que ce qui s'était fait ne puisse plus se répéter. Là, nous sommes en face d'une justice où ce qui s'était produit, les experts des Nations Unies, mais on en parlait aussi, il n'y avait pas que des experts des Nations Unies, il y avait aussi des Congolais qui les accompagnaient, les interprètes, les gens qui étaient autour d'eux. Pourquoi cette justice sélective? Donc, vous voyez déjà à ce niveau-là, il y a une sorte de discrimination, comme s'il y a des gens qui n'ont pas droit à la vie et qu'il y a des gens qui avaient droit à la vie, qui nécessairement ne devaient pas mourir, mais il faut alors chercher la justice pour eux. Mais les Congolais qui les accompagnaient, quel est leur sort? Quel est leur sort? Et ça, ça transpire également le sentiment d'une justice sélective.
Voilà.
C'est ça un peu ce que je veux dire.
Voilà, Jonas Tshombela, donc oui. Vous, à l'instar de Maître Dominique Kambala, vous dénoncez ce que vous appelez justice sélective, du fait que, selon vous, les commanditaires ne sont pas là, mais aussi, on n'a pas évoqué, n'est-ce pas, les quatre accompagnateurs, n'est-ce pas, qui sont aussi morts. Mais est-ce que vous pensez qu'un procès, un autre procès peut-il être envisagé?
Et je pense qu'un autre procès sera envisagé tant que les sauteurs de ces crimes qui ont été commis sur le sol congolais continuent de circuler en toute impunité. Je crois que eux aussi, ils doivent être poursuivis. C'est ça la justice. Donc on ne peut pas se contenter de ces condamnations pour quand même se faire conscience tranquille, comme si tout était fait. Mais il y a la partie réparation, comment on va réparer la partie réparation. Et là aussi, Maître l'a évoqué tout à l'heure, le problème de condamner quelqu'un à mort, c'était dit par les lois congolaises, il y a un moratoire là-dessus, mais est-ce que c'est ça la bonne manière de réparer? Parce qu'on va encore supprimer d'autres vies. Or, au Congo, supprimer une vie dans ces conditions avec ce moratoire qui existe, c'est impossible. C'est comme si on a fait pour avoir une conscience tranquille d'une justice, alors qu'en réalité, c'est du tout plaisir, quoi.
Voilà.
Nous devons ouvrir un autre procès pour qu'on arrive quand même à capter les auteurs intellectuels, les gens qui ont été à la base de ce massacre, qu'eux aussi soient poursuivis. Et c'est de cette manière qu'on peut rétablir la vérité dans cette affaire.
Et au-delà de tout ça, avec le recul du temps, Jonas Tshombela, peut-on aujourd'hui répondre à la question de savoir à qui auraient profité les doubles assassinats des experts des Nations Unies?
Mais c'est ça le problème de l'enquête, les enquêtes qui ont été initiées par les Nations Unies. C'était pour faire disparaître la vérité, mais la vérité qu'ils pouvaient faire disparaître, elle profita à qui? Le régime en place doit répondre. Ceux qui ont reçu ou qui avaient reçu la mission de protéger les personnes et leurs biens et de sécuriser les frontières de la République, y compris l'endroit où les crimes-là se sont commis. Donc la responsabilité de l'État congolais reste engagée dans cette affaire, parce que c'est eux qui sont en place. Mais comment on est arrivé? Parce que il y a des grands messieurs du régime dont le nom a été cité. Est-ce que ça est que ça profite pour supprimer la vie des experts? Donc tout ça, les enquêtes devaient nous éclairer et que la justice se saisisse pour que nous sachions ces crimes-là ont profité à qui.
Merci, Maître Ruffin Luko Moussouba. Vous êtes avocat, vous êtes chercheur en droit de l'Université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. Je pense que je suis correct, n'est-ce pas, dans la façon de
Merci
vous présenter.
Merci, Ruffin Luko Moussouba. Chercheur congolais.
Voilà, plus, on ne parle plus d'avocat.
Vous ne parlez pas d'avocat ici,
voilà.
Vous parlez seulement de... Chercheur congolais.
On a compris. Alors, quelle est votre lecture du verdict prononcé dans cette affaire assassinat des experts des Nations Unies?
Vous allez excuser ma voix. Revenant fraîchement d'une grippe convalescente, je devais venir pour, n'est-ce pas, respecter ses devoirs ici. Mmh. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que lorsque, je commence par là, lorsque Tshombela parle du régime en place qui doit, n'est-ce pas, répondre, il faut rappeler que ces faits remontent des années 2012-2013-2014. Et donc, c'est le régime parti. Et lorsqu'on parle des responsables qui avaient été cités dans les enquêtes, je vais rappeler ici que dans tous les rapports territoriaux belges, les résistances qu'ils ont eues, que ce soit au Sankourou, qu'on appelle la résistance de Batetela, que ce soit la résistance de Mongo, de Ngwandi, vous pouvez remonter toute l'histoire coloniale, c'est que l'erreur a été commise par les Belges de toucher les chefs coutumiers, qui, elles, ne sont pas élus, ils ont un pouvoir ancestral. Ce qui s'est passé dans l'ancien régime, c'est qu'ici, au Kassai, on a touché un chef coutumier.
Dans l'affaire Kamouna-Nsapu.
Dans le déclenchement de l'affaire Kamouna-Nsapu, on a touché le pouvoir coutumier et la personne qui l'incarnait, c'était le chef coutumier, lui-même. Et il a été tué. Et lorsque les enquêtes ont été déclenchées, votre reportage parle de 3000 et plus de morts. On est allé jusqu'à des sources indépendantes à plus de 10 000 morts dans les phénomènes de Kamouna-Nsapu. Parmi les responsables dont on réclame les noms ici, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque. Il y a l'ancien responsable des services de l'enseignement militaire. Et donc, les ordres qu'ils ont donnés aux éléments de la police ou de l'armée, on a parlé d'un certain commandant régional à l'époque, dans la surveillance et prise en charge de ces enquêteurs. Rappelez-vous déjà que pour le droit pénal international, attenter à la vie d'un enquêteur des Nations Unies, ce n'est pas arrivé dans beaucoup de pays. Hein. C'est chez nous seulement que ça arrive. D'ailleurs, ce procès ici, que je vais retracer rapidement, rappelle la nécessité dans notre pays de la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Pour que nous ayons une justice qui n'hésite pas. Ici, la haute cour militaire vient encore de résister et de prononcer sa sentence après 9 ans.
Il vient de résister, c'est-à-dire ?
Elle a résisté, ça veut dire contre les influences. C'est parce que la nouveauté qu'on ne dit pas ici. Le seul responsable officiel dans le procès qui a été condamné, c'est le colonel Mambweni. Le premier juge de la cour militaire l'a condamné à 10 ans. La haute cour vient d'aggraver sa situation, vient de le condamner à la peine de mort, à la peine capitale. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une résistance.
Eh bien, à votre avis, s'il faut s'arrêter sur les cas Jean-Didier Mambweni, pourquoi tout semble tourner autour de lui? Parce que c'est souvent son nom qui revient souvent.
Son nom revient parce que c'était un agent technique, c'était un agent de la République, et il avait, et c'était un officier supérieur. Il a eu la charge, comme on le dit à la cité, il a eu la charge de ne rien dire de ce qui va au-delà de lui.
C'est-à-dire?
Ça veut dire tout ce qu'il a envoyé, les ordres qu'il a reçus, comment il s'est retrouvé là-bas. Les agents qui sont formés, dans beaucoup de procès, même dans les procès Colonel Mamadou Ndala à Beni, il y a des agents qui ont assumé la responsabilité de toute la République. Et ce colonel ici assume sa responsabilité. Et comme il assume, la haute cour militaire les lui faut porter entièrement.
Était-il le seul acteur dans ce
Il n'était pas le seul, c'est ce que nous avons dit.
Oui, c'est pourquoi la question qui se pose ici, pourquoi tout semble tourner autour de l'unique personne, Jean-Didier Mambweni.
C'est le plus gradé du procès, et la précision qu'on doit donner à nos auditeurs, la haute cour n'est pas le premier juge. Donc la haute cour a reçu en appel ce qui a été jugé au premier degré dans les années. Donc la haute cour a reçu, le procès a commencé en 2018. Et la haute cour l'a reçu en 2022. C'est en 2022 que la haute cour, qui a prononcé le vendredi, a reçu le dossier en appel. Et donc, tout cet état ici, qu'est-ce que pouvait faire la haute cour qui n'a pas été fait par le premier juge? Ceux qui ont étudié la procédure savent que le pouvoir d'appel, c'est le pouvoir d'un juge qui reçoit ce qui a été jugé au premier degré. Donc il ne peut pas aller au-delà. C'est vrai, dans cette affaire ici,
il peut aller au-delà, alors qu'on se rend compte que dans le deuxième degré, il y a des gens qui ont été ajoutés sur la liste, alors que ces gens, on ne les citait pas au premier degré.
Alors, on ne les citait pas au premier degré, ils sont venus pour nombreux comme des renseignants. Leur situation ne peut pas être jugée pour la première fois en appel. Non. S'ils n'ont pas été jugés en appel, c'est pourquoi nombreux ont été acquittés. Donc, les cas les plus emblématiques, la personne qui n'a pas été jugée au premier degré ne peut pas être jugée au premier et second degré par la haute cour militaire. Donc la haute cour militaire renverra cette personne à être jugée par le premier juge.
Voilà. Et comment vous jugez la procédure? Est-ce que la procédure a été respectée?
La procédure, pour le moins, la haute cour a respecté la procédure. La haute cour militaire a respecté la procédure. Cette juridiction-là a déjà donné ses lettres de noblesse dans plusieurs procès que je peux citer ici, Vous voyez les procès qu'ils sont en train, les hauts magistrats qui sont en train d'expédier en ce qui concerne les hauts gradés, les généraux, les chefs d'état-major général, c'est toujours eux, des magistrats qui ont fait pour la plupart plus de 30 à 40 ans de juge militaire. Et donc, en ce qui concerne la procédure, j'ai lu la décision, plus ou moins, ils l'ont respectée.
Oui, mais la justice militaire qui juge des civils, vous avez suivi Maître Dominique Kamandou, plutôt Dominique Kambala,
oui.
Qui a dénoncé cela.
Que j'ai sali. Il dénonce, il parle de menis frétins. Sur cette question-là, il a raison. Mais la flèche n'est pas lancée à la haute cour militaire. C'est aux enquêteurs qui ont traduit. Qui ont-ils traduit devant le juge, c'est-à-dire la cour militaire? Ça, ce n'est pas au juge. C'est à celui qui a enquêté. C'est vrai, dans l'administration précédente, Dante, il y avait beaucoup de contraintes dans ces procès-ci. D'ailleurs, c'est la pression de la communauté internationale qui a fait qu'il puisse y avoir procès, rappelez-vous, et de la société civile. Et pourquoi dans ces drames de l'Afrique centrale, pourquoi s'intéresse-t-on aux victimes et ne s'intéresse-t-on pas aux commanditaires? Si vous prenez par exemple la situation du génocide rwandais, le fait qu'on n'a jamais identifié qui a déclenché le génocide, la justice est restée comme ça, la justice des gagnants. De plus fort, tant qu'à Yumbi, les massacres de Yumbi, on ne met pas la main sur le déclencheur. Tant qu'à Kamuina Sampou, on ne juge pas ceux qui ont déclenché la vague des massacres et des représailles du phénomène Kamuina Sampou pour que la RDC en perde autant, et particulièrement la responsabilité politique, parce qu'il y a eu des politiciens qui ont décidé d'envoyer une équipe militaire et de policiers pour aller envahir la cour du roi Kamuina Sampou pour déclencher ce phénomène. Il n'y a jamais eu justice, personne n'a été interpellé pour que l'on sache qui, sur base de quoi ont-ils pris ces décisions-là.
Alors, à votre avis, vous, en tant que juriste, hein, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que, en dépit du fait que certains noms sont cités, mais ces personnes n'ont jamais été non seulement invitées, mais aussi poursuivies. Est-ce que c'est lié au fait que, parce que j'ai posé la même question à Maître Dominique Kambala, est-ce que c'est lié au fait que les conditions dans lesquelles les assassinats ont été commis, les conditions étaient floues, ou alors il y a des impératifs politiques qui peuvent expliquer ça?
Bon, d'abord, les conditions étaient trop floues. Et puis, pour vous rappeler, les images étaient intenables. On appelle ça des images difficiles. Lorsque nous avions tous visualisé ces images-là de l'assassinat, vous rappelez, lorsque ces images ont fuité, n'est-ce pas? C'était des images difficiles. Mais les raisons sont politiques, essentiellement. Les raisons sont politiques.
Donc il y a des gens
Vous vous rappelez du dossier Floribert Chebeya? Vous vous rappelez que je fus le dernier qui avait assisté sur ses antennes, avec Chebeya, sa dernière émission sur Radio Okapi, et je me suis retrouvé celui qui devait parler au nom du gouvernement pour faire passer la version officielle. Il y a eu beaucoup de contraintes. Moi, j'étais porte-parole à l'époque du ministre de la Justice. Mais aucun responsable ministériel n'était capable d'affronter l'opinion parce que le fait était difficile. Ça veut dire quoi en ce qui concerne maintenant Kamuina Sampou? L'effet Kamuina, c'est un phénomène qui a porté la disparition d'un nombre important de nos compatriotes. Ces faits-là sont essentiellement d'abord politiques. Il y a donc une responsabilité politique et les politiciens de l'époque n'ont pas voulu assumer la gravité, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont posé au Kassai, notamment dans le territoire des chefs qui portent les noms de ces phénomènes. Et donc, pourquoi n'avons-nous pas vu les responsables majeurs être jugés? C'est la question que vous me posez. C'était des questions politiques.
Voilà,
l'émission, des contraintes politiques.
L'émission est aussi pédagogique. Hein?
Tout à fait.
Lorsque quelqu'un dont le nom est cité refuse d'assumer, comment réagit la justice?
Bon, la justice, en principe, doit les contraindre. Doit les contraindre à venir répondre. Mais la justice de notre pays, vous avez entendu combien les chefs le magistrat suprême, à côté notre justice. Il y a des, vous avez vu également, il y a quelques jours, le magistrat suprême, disons, le premier bâtisseur du pays, à côté le gouverneur de la ville. Et dans ses paroles, dans ses propos, il a dit, est-ce que vous n'avez pas l'autorité pour que vous laissiez la capitale si sale? Vous n'avez pas l'autorité. Ça veut dire quoi? Il y a une indépendance que des magistrats congolais doivent assumer et exercer. Dans les procès Kamuina Nsapu, au premier degré, ça ne l'a pas été. Mais au second degré, nous voyons des magistrats qui se sont assumés. Mais ils n'avaient pas de pouvoir d'appeler en responsabilité des gens qui n'ont pas été appelés par les premiers juges.
L'autre question, toujours de manière pédagogique, quand est-ce qu'un civil est jugé par le tribunal militaire?
Alors, le civil est jugé par, d'abord par principe, les tribunaux militaires déclinent leurs responsabilités ou leurs compétences lorsque devant eux est traduit soit un mineur ou soit un civil. Mais la loi, le code judiciaire militaire, a prévu que si des civils, dans la prévention qui les reprochait, ont fait usage d'une arme de guerre. Ils sont jugés par la justice spécialisée des armes de guerre, c'est la justice militaire. Et lorsque les civils ont collaboré dans la commission de l'infraction avec les militaires, ils sont jugés par la justice militaire.
Et dans le cas d'espèce?
Dans le cas d'espèce, beaucoup de civils ont été utilisés, notamment. Vous vous rappelez lorsqu'on a amené les experts des Nations Unies sur le terrain, beaucoup de civils avaient été utilisés pour les distraire à aller ici alors qu'ils ne devaient pas aller là-bas. Il y a une collaboration, il y a une coopération de beaucoup de civils dans ces cas ici. C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir lequel de chacun, comment sa responsabilité, parce que la justice congolaise a le devoir en ce qui concerne la coparticipation criminelle, ou bien la coopération dans la participation à la commission des peines, de motiver les rôles de chacun dans la commission de l'infraction. À quel degré et à quel niveau a-t-il coopéré? Ça, c'est une obligation qui est posée par notre constitution. Donc, il faut lire l'ensemble de la décision et savoir qui sont les civils qui ont été rattachés à ces militaires-là pour être condamnés avec eux. Donc, dans le cadre du rôle pédagogique, comme vous l'avez rappelé, j'ai entendu que la peine de mort est déplorée, n'est-ce pas, par son application.
Parce que ce n'est pas consacré par la Constitution.
C'est consacré par les codes pénals.
Pas par la Constitution.
Oui, dans l'arrêt Moukonkole, le parti avait saisi la Cour constitutionnelle pour voir déclarer la peine de mort en RDC comme une peine anticonstitutionnelle. Et l'arrêt Moukonkole de la Cour constitutionnelle a déjà considéré que la peine de mort contenue dans le code pénal est conforme à la Constitution. Donc, en ce qui concerne l'inconstitutionnalité de la peine de mort chez nous, la Cour constitutionnelle a déjà réglé cette question-là. Et donc, qu'est-ce qui reste?
Ça paraît contradictoire, hein, parce que la Constitution interdit cela, mais vous dites que la Constitution parle.
C'est conforme à la Constitution. La vie humaine est sacrée.
Voilà. C'est un peu ça l'idée.
La vie humaine est sacrée.
Parce que la vie est sacrée, on ne peut pas exécuter quelqu'un.
Non, si la vie humaine est sacrée, bon, c'est pas moi qui défends la chose. Si la vie humaine est sacrée, le code pénal considère que c'est qui la supprime. Ce sont eux d'abord qui doivent respecter la sacralité de la vie humaine. Si eux n'y parviennent pas, ce qui les attend, c'est la peine capitale. Mais vous vous rappelez que chez nous, cette peine capitale, il y avait un moratoire. Mais le moratoire a été levé à l'époque de la ministre de la Justice, Madame Kessé. C'est elle qui a levé le moratoire et le ministre de la Justice, Mutamba, a continué, n'est-ce pas, à montrer que la possibilité était donc lancée dans notre pays pour procéder à l'exécution. Moi, en ce qui me concerne, vous savez ma position, je considère que je suis un rétentionniste parce que nous avons eu beaucoup de morts à l'est du pays. Nous avons eu beaucoup de morts à Yumbi, au Bandundu, nous avons eu au Grand Bandundu, nous avons eu beaucoup de morts au Kassai avec Amouna Sampo. Tout ça, ça il y est parce que la peine de mort n'est plus appliquée dans notre pays et beaucoup de récidivistes les font dans notre pays parce que tout simplement la peine de mort n'est plus exécutée.
Voilà, après qu'on ait beaucoup parlé, on va donner l'occasion maintenant aux auditeurs qui sont en train de vouloir donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Maître Dominique Kambala, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Maître Olimongo Kitungano Joseph, j'interviens depuis la ville de Bukavu. Nous saluons cette décision de la haute cour militaire prise en toute impartialité, indépendance et dans le respect de toutes les garanties d'un procès équitable. Cet arrêt non seulement constitue une grande jurisprudence en matière de crimes internationaux, mais aussi ça vient lutter contre l'impunité et instaurer l'état de droit depuis longtemps prôné par les chefs de l'État, les magistrats suprêmes. Si d'autres présumés auteurs des crimes graves du droit international et ces d'autres actes odieux seraient poursuivis et condamnés de la sorte, beaucoup de crimes ne resteraient pas impunis, les sangs des victimes ne criaient pas justice et leurs ayants droit seraient rétablis dans leurs droits par l'allocation des dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis. Je recommande que l'auditeur général des FRDC continue avec d'autres enquêtes pour mettre la main sur les auteurs intellectuels instigateurs, car ceux qui sont condamnés, vous vous rendrez compte que c'est un arbre qui cache toute une forêt.
Maître Dominique Kambala.
Voilà, Guy Batté, merci beaucoup. Avant de répondre à la question de l'auditeur, permets-moi de pouvoir revenir sur des réponses données par Monsieur Ruffin Loucault. D'abord, par rapport à la précision des faits, hein, donc les faits ne se sont pas déroulés en 2012-2014, donc il faut bien avoir la précision du contexte historique. Les faits se sont déroulés entre 2016 et 2017, ça c'est de un. Le procès au premier degré n'a pas commencé en 2018, comme il vient de le dire, mais le procès a commencé le 5 juin 2017, ce sont des précisions à donner. Autre chose à donner, c'est la réflexion entre les dispositions légales et les dispositions constitutionnelles. Qu'est-ce qui prime? Parce que la Constitution confère la justice des policiers et des militaires aux juridictions militaires. Il y a le principe du juge naturel, ça c'est la Constitution qui le dit. Il y a aussi le problème de la peine de mort, la vie humaine est sacrée. Alors donc, je me pose la question de savoir, comme c'est une émission pédagogique, entre une disposition constitutionnelle et une disposition légale, qu'est-ce qui prime? Parce que le code de justice militaire parle bien de la collaboration, de l'utilisation d'une arme de guerre. Mais alors, quelle est la valeur d'une disposition légale par rapport à la Constitution? Donc, alors, ça, c'est un débat qui est ouvert. Mais pour revenir à l'auditeur, oui, c'est comme je l'ai dit, bien fort. Donc, ce procès répond aux besoins exprimés par les populations. Il y a eu un rapport qui a été fait sur les consultations populaires sur les besoins de la justice. La population à plus de 50% a accepté, a exprimé le vœu de voir les enquêtes, les poursuites judiciaires être entamées. Et qu'aujourd'hui, ce verdict doit être salué parce qu'il rentre dans le cadre de l'expression populaire des populations consacrées dans un rapport qui existe. Alors donc, c'est un pas à saluer, mais il ne faut pas se frotter les mains. Il faut que la lutte contre l'impunité ne puisse pas s'arrêter à mi-chemin, qu'elle ne soit pas sélective. Elle doit être holistique, complète, c'est-à-dire toutes les personnes impliquées dans le cadre de ce qui se fait non seulement dans la région du Kassai, mais aussi dans d'autres régions du pays, ces personnes, qui qu'elles soient, elles doivent répondre de leur responsabilité. Donc je crois que nous disons la même chose, ça n'a pas été franchi, mais il faut que d'autres questions qui sont soulevées autour de la mise en œuvre de la justice obtiennent des réponses. Merci. Nous venons de donner la... Allô?
Oui, allez-y, rapidement.
Je dis que je viens de donner l'exemple des quatre compatriotes congolais qui sont décédés dans les mêmes conditions, dont le dossier a été presque... a été pris à la même période. Mais comment aujourd'hui il y a un traitement sélectif? Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Non seulement qu'il y a ce problème-là de deux experts au musée, il y a les procès Moulombodi, il y a les procès Ngaza, il y a les procès Tshisoukou.
Tous ces procès-là sont dans les tiroirs
de l'auditoire.
FADC, auditoire général.
Donc, il faut que cette lutte, c'est un dégageur, c'est possible. Mais il faut aller jusqu'au bout pour qu'on ait le sentiment que la justice a été bien rendue. Sinon, si c'est une justice sélective qui ne donne pas satisfaction, eh bien, la lutte contre l'impunité risque de ne pas donner les satisfactions nécessaires.
Merci, Maître Dominique Kambala. Monsieur Jonas Tombela, vous allez réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Butembo, dans le Nord Kivu.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Héritier Kibangu depuis la ville de Butembo. Nous saluons ce pragmatisme de la justice qui vient de confirmer son rôle régalien, celui de rendre à chacun ce qui lui convient et de déduire une fois de plus le caractère du service de la peine. Cependant, nous voudrions que cette justice fasse de même pour les chefs de file des groupes armés négatifs qui continuent à sévir l'est du pays, à l'instar des ADF, Codeco et tant d'autres qui, jusqu'à aujourd'hui, bénéficient d'une impunité notoire, malheureusement. La justice ne doit pas être rendue au bénéfice d'une catégorie de personnes, mais plutôt au bénéfice de tous. Comme ceci vient d'être rendu au bénéfice des Nations Unies, qu'il soit ainsi pour les populations victimes des atrocités.
Monsieur Jonas Tombela.
Oui, comme vous le savez, dans une démocratie, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être perçue juste, impartiale et indépendante. Une justice qui sélectionne ses cibles devient un problème pour la société. Donc, nos compatriotes sont en train de porter le problème de cette justice qui ne doit pas seulement s'arrêter. Et là encore, Maître Kambala Kananga vient de le dire, il y a encore des problèmes qui n'ont pas encore droit à la justice. Là, il évoque le cas de tous ceux qui ont comme profession tué, violé à l'est de la République dans des zones où l'État n'a plus d'autorité. Tous ces gens continuent à circuler en toute impunité. Donc, ça remet en question toute la machine de la justice de la République, pour voir comment on peut efficacement lutter contre l'impunité, lutter contre cette justice sélective, la justice des puissants et des faibles. Donc voilà, tant de l'autre. Donc la justice aussi, elle est remise en question. Est-ce que ce n'est pas le moment? Malheureusement, nous avons connu dans ce pays des états généraux de la justice qui débouchent toujours sur l'injustice, où il n'y a pas de réforme réellement entreprise pour qu'on ait une justice équitable, impartiale et qui peut contraindre les puissants. Tant qu'on continuera dans ce pays avec des justices de puissants, tous ces gens que les compatriotes tentent de crier, qui tuent à l'est de la République, et même si l'ensemble de nos provinces, continueront de tuer parce qu'il n'y a pas une contrainte qui peut les dissuader de ne pas continuer avec cette profession inhumaine, cruelle, qui ne donne même pas la dignité à la personne, à la vie humaine. Donc, je pense, moi, à mon humble avis, nous devons continuer avec le combat de la lutte contre l'impunité, mais aussi améliorant les conditions d'accès à la justice et même d'exécution des décisions qui sont prises à la justice. Parce que ça peut être prise comme ça, comme décision, à la fin, il n'y a rien qui arrive. Et puis, ça ne dissuade personne. Et puis, tout le monde doit comprendre que ça va toujours fonctionner de cette manière-là. On condamne les gens. Après, il n'y a pas la sanction réelle qui suit. Il n'y a pas réparation qui suit. Alors, comment peut-on continuer à croire cette justice-là? Donc, ils ont dû pincer la planche pour que la lutte contre l'impunité ne se déclenche pas non seulement dans l'affaire Kamuena Nsapu, mais sur l'ensemble du pays, ce serait un message fort.
Merci, Jonas Tombela. Monsieur Rifin Louko, vous allez se réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bounia, à Ituri.
Maki Debojité, à partir de Bounia, à Ituri. Je salue la décision rendue par la haute cour militaire dans l'affaire de l'assassinat des experts de l'ONU. Cette condamnation constitue un signal fort dans la lutte contre l'impunité et rappelle que nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son rang ou sa fonction. J'espère également que cette dynamique de justice se poursuivra à travers l'ouverture et l'approfondissement d'enquêtes sur les massacres qui ont endeuillé les populations de l'Ituri et de Kivu. Les efforts devraient aussi porter sur les allégations de détournement des ressources publiques, l'exploitation illicite des ressources minières, notamment l'or, ainsi que sur l'origine de certains biens dont l'acquisition soulève des interrogations légitimes. La paix durable, la sécurité et la confiance des citoyens dans les institutions passent par une justice impartiale, indépendante et appliquée à tous.
Tout à fait. D'abord, je remercie le bâtonnier pour les précisions détaillées qu'il a apportées, et en particulier en ce qui concerne l'auditeur de l'Ituri. L'Ituri est l'une des provinces de la République qui a besoin de la justice, et d'une manière effective et efficiente. L'Ituri a besoin de la justice. Ça fait une vingtaine d'années qu'il l'attend. C'est vrai, la justice militaire a fait un travail énorme dans l'état de siège. Mais en ce qui concerne la réparation, les réparations, l'Ituri attend toujours. Et c'est pourquoi nous avons dit que dans la première proposition que le bâtonnier Kambala a donnée, qu'il faut que la justice telle qu'elle a été rendue ne se termine pas par là. Il faut, comme le procès Tchebea a été repris deux fois, il faut que Kamuina Nsapu et Yumbi, qui est un procès qui implique tous les véritables auteurs. Vous savez pourquoi la population de Kassai a l'impression que c'est une justice sélective et qui n'a pas satisfait aux besoins de la population?
Pourquoi?
Principalement parce que cette justice semble être lancée, ou bien on peut dire la consommation de l'extérieur pour Zaïda Catalane et Michael Tcha. Donc ça veut dire principalement pour les Occidentaux, les expatriés. Mais le procès véritable pour réparer les victimes du phénomène de Kamuina Nsapu, le plus de 5000 morts, n'a jamais eu lieu. Pour la population du Kassai, il n'y a jamais eu justice. Pour la population congolaise, en ce qui concerne le Kassai, en ce qui concerne le Bandundu, en ce qui concerne l'Ituri, il n'y a pas encore justice pour porter la réparation des victimes. Et c'est pourquoi nous avons dit que cette émission, ou bien ce rebondissement dans l'histoire de la justice au Kassai, ramène la nécessité d'un tribunal pénal spécial pour la RDC, parce que ce tribunal-là aura la possibilité, comme on l'avait déjà invoqué à l'époque du ministre de la Justice, Luzolo, des juges mixtes, des juges internationaux, des juges expatriés et des juges congolais. Et ça aura la possibilité d'atteindre tous les auteurs présumés, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient politiciens ou qu'ils soient en Afrique centrale ou en Afrique australe ou en Afrique de l'Est. Eh bien, cette justice pénale internationale pour la RDC nous permettra de mettre définitivement fin au cycle des violences qui n'a pas cessé, non seulement à l'est du pays, en Ituri, mais également au Kassai et au Grand Bandundu. Je crois que nous devons terminer cette émission en rappelant qu'il est nécessaire que notre ministre de la Justice s'active pour obtenir le tribunal pénal international sur la RDC.
Merci. Nous tendons vers la fin de l'émission. Maître Dominique Kambala, quelles leçons peut-on tirer de ces procès?
Bon, la leçon qu'il faut tirer de ce procès, c'est que en République démocratique du Congo, plus que jamais, la lutte contre l'impunité des crimes graves est résolument engagée. Cette lutte doit être une lutte totale, elle doit être sélective, elle doit concerner toutes les personnes totalement impliquées qui ont endeuillé les populations congolaises, non seulement dans l'espace Kassai, mais dans toute la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est une grande leçon. Une autre leçon, c'est que la justice congolaise est capable de beaucoup de choses. Évidemment, la question du tribunal pénal, c'est une problématique qui est sujet à débat. Mais nous avons notre justice. On ne peut pas abandonner le secteur de justice entre les mains étrangères. Donc nous avons des magistrats formés, nous avons des institutions, mais il faut que l'État congolais assume ses responsabilités, qu'il puisse doter la justice des moyens logistiques, matériels, financiers nécessaires pour que notre justice soit capable d'être opérationnelle. Et aussi, nous pensons que la leçon, c'est qu'il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter sur ce bon chemin,
Il faut que ce procès soit refait comme le procès CBA. Nous en interpellons à la responsabilité du ministre de la Justice et puis le magistrat suprême qui a opté pour la justice transitionnelle comme étant une politique publique. Il faut absolument que la lutte contre l'impunité aille jusqu'au bout et qu'il y ait des garanties de non-répétition pour que les personnes qui se sont trempées dans des graves violations des droits de l'homme ne puissent pas être élevées à des niveaux de responsabilité. Merci. Dans ce pays. Merci. Il faut aussi faire fonctionner des mécanismes de vérité qui est en train de tourner au ralenti dans la province du Kasaï central.
Merci, Maître Dominique Kambala. Je considère ça comme votre conclusion. Jonas Tchombela, au-delà de tout ce que vous avez dénoncé, les lacunes, notamment le fait que les commanditaires ne sont pas là, le fait que les accompagnateurs congolais, le dossier n'a pas été pris en compte, mais au-delà de tout ça, le verdict tel qu'il a été rendu, vous pensez qu'il est susceptible de décourager la commission des actes répréhensibles?
Nous pensons que nous ne devons pas tomber dans le pessimisme. Ça ne peut être qu'une opportunité qui peut nous relever et nous engager également pour activer tous les mécanismes judiciaires qui peuvent être mis en place pour que justice soit aussi faite aux autres victimes presque oubliées. Non pas parce que ce sont des Congolais, mais parce que c'est des petits messieurs qui n'incarnent aucune institution. Donc la justice ne doit pas fonctionner de cette manière-là, parce que nous pensons à notre humble avis, le véritable défi de la justice n'est pas seulement d'avoir des cours tribunaux ou des magistrats, mais c'est aussi de garantir la justice à tous les citoyens. C'est ce que nous devons avoir comme préoccupation. Pour le moment, nous n'avons pas droit au découragement. Nous pensons qu'il faut maintenant, c'est une opportunité de nous réactiver et tous dans la lutte contre l'impunité pour que ceux qui ne sont pas encore touchés par cette justice aujourd'hui, ils le soient demain.
Merci, Monsieur Ruffin. Louko Moussoubao, votre conclusion, les procès étaient-ils pédagogiques, à votre avis?
Bon, il n'a pas été suffisamment diffusé. Il a pris beaucoup de temps. Et la population, généralement, lorsque le procès prend beaucoup de temps, l'intérêt s'estompe. Il faut que le procès, c'est vrai, la haute cour militaire, avec les moyens qu'ils ont réussi, c'est la seule juridiction suprême qui fait les chambres foraines dans les provinces. Et ça, c'est un effort énorme. Mais en ce qui concerne le procès, comme un ensemble, la diffusion n'a pas été au rendez-vous. Et la conséquence, donc, c'est qu'on est surpris d'apprendre que le jugement a eu lieu. Ce que nous demandons principalement en ce qui nous concerne, c'est que ce procès, en ce qui concerne le phénomène de Kamuina Nsapu, il faut que les auteurs du déclenchement soient jugés. Et la population saura dire merci au magistrat suprême. Ce sont ceux-là principalement et qu'on pense à une caisse de réparation en faveur des victimes. Toutes ces familles-là dont on a arraché le parent, il faut que ce soit mis à la soirée pareil.
Vous avez estimé que le procès a été fait pour la consommation extérieure parce que les cas congolais n'ont pas été pris en compte. Alors, pour que l'on prenne en compte ces milliers de personnes qui ont été tuées, violentées, l'impulsion devrait venir de qui?
Ça principalement de l'auditeur général, et nous lançons la figure, l'auditeur général de FARDC et l'auditeur supérieur de la cour militaire de Kananga. Ce sont ceux-là à qui nous lançons la figure, et ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec le magistrat suprême. Ce sont eux à relancer les procédures qu'ils n'ont pas fait et les responsables véritables qui, à l'époque, n'avaient pas été entendus, que cette fois-ci, ils le soient.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Maître Ruffin Louko, merci d'être venu jusqu'ici au studio. Monsieur Ruffin Louko Moussoubao. Maître Dominique Kambala, merci également d'avoir accepté notre invitation. Et aussi, Monsieur Jonas Tchombela, que nous avons pris au pied levé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Donna Madimba et Benjamin Mundumbi qui l'ont réalisé. Et à Pierre Diassino et Alain Ngoï qui était à la technique. Et Chembe Louko qui a assuré le live de cette émission. Merci aussi à André Katende qui a contribué à la production de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.